Deuxième point maintenant, les cose di Stato. L'expression cose di Stato, les choses de l'État. Alors, si l'on essaie de comprendre quelles sont les voies et les conditions de possibilité qui ont pu permettre à Machiavel de penser aussi l'État comme sujet et comme instance autonome, alors même que la polysémie et la condensation sémantique propre au terme de Stato ne rendaient pas cette étape évidente, il est sans doute possible de formuler différentes hypothèses. L'une d'entre elles fait appel à la spécificité des institutions florentines et à la façon dont apparaît le pouvoir souverain dans l'histoire de la cité. Notamment la question de l'apparition d'une classe de citoyens qui se consacre en propre au gouvernement, à l'administration, à la gestion de la République dans le cours du XVe siècle. Alors, ce n'est pas cette hypothèse-là que j'entends développer maintenant, mais une toute autre hypothèse qui consiste à se demander si cette représentation du Stato comme instance autonome ne vient pas de l'omniprésence dans les textes florentins de la question de la survie de l'État dans le nouveau contexte international créé par les guerres d'Italie. Une hypothèse donc qui fait plus appel aux relations interétatiques, à la guerre et à la diplomatie, qu'à la situation intérieure. Une hypothèse qui consiste à prendre en considération la réalité de l'État, l'identité de l'État et la prise de conscience de ce qu'est l'État à l'intérieur des relations internationales, évidemment, est un anachronisme. Il vaudrait mieux dire ici précisément interétatique. Alors, c'est dans ce cadre et pour une telle hypothèse qu'il est particulièrement instructif d'être attentif aux emplois de cette locution, cose di Stato, chose de l'État, une locution que l'on retrouve dans toutes sortes de textes, qu'il s'agisse pour Machiavel donc du prince ou des discours, mais qu'il s'agisse aussi des lettres de gouvernement. Lorsque Machiavel était secrétaire de la seconde chancellerie et de l'institution des Dieci di Balia, je vais revenir sur la Dieci di Balia, mais qu'il s'agisse aussi, du point de vue du corpus, des lettres familières, des lettres privées, qu'il échange en particulier au cours de sa longue correspondance avec son grand ami Francesco Vettori. Et celle-là, donc, au même moment que la rédaction des œuvres, après la période où Machiavel a été aux affaires, donc après la chute de la République, et en particulier durant toute l'année 1513, qui est aussi l'année de rédaction du Prince. L'intérêt, évidemment, d'une expression comme les cose di Stato, les choses de l'État, c'est que, comme son nom l'indique, elle a pour fonction de désigner ce qui appartient en propre à l'État, ce qui lui est spécifique. Or, de quoi s'agit-il quand on parle des cose di Stato? Il s'agit essentiellement de tout ce qui a trait aux relations extérieures, à la diplomatie, à la guerre, parfois même à l'espionnage, à la sécurité, mais à la sécurité non pas intérieure, mais extérieure. La sécurité extérieure de l'État dans le cadre de ses relations avec les autres États. Et ce qui est intéressant, c'est que cette expression apparaît comme une expression, une locution technique, comme le montre de façon évidente un corpus plus large encore que le seul corpus machiavélien, mais l'ensemble des textes de chancellerie à l'époque de la République. Hein. On voit dans ces textes, hein, à travers plusieurs occurrences, que à Florence, donc, les cose di Stato étaient la locution, on pourrait dire administrative presque, hein, en tout cas un terme technique, une locution technique, qui désignait précisément le domaine de compétence de l'institution des Dieci di Balia. Les Dieci di Balia étaient cette instance composée donc de 10 hommes, 10 citoyens régulièrement renouvelés, élus et régulièrement renouvelés, chargés des affaires diplomatiques et militaires. Alors, on a ces textes qui disent, comme vous le savez, les cose di Stato sont de notre ressort. Hein. Comme vous le savez, nous nous occupons des cose di Stato. Puisque nous nous occupons des cose di Stato, vous devez en référer à nous, etc., etc. Sachant que, donc, comme je le disais, ce domaine de compétence était précisément diplomatique et militaire, tout ce qui concernait les affaires extérieures, on comprend mieux, hein, le sens qu'a la locution dans l'ensemble des textes. Donc, il y a un grand nombre de lettres de Machiavel, hein, qui sont écrites au nom des Dieci di Balia, hein, puisqu'il était le secrétaire, donc c'est lui qui écrivait la plupart des textes qui émanaient de cette institution, hein, les lettres de gouvernement. Dans un grand nombre des lettres de Machiavel, ce sens spécifique de domaine de compétence donc des Dieci est confirmé. Alors, il ne faudrait pas pour autant penser qu'un usage aussi spécifique du terme stato, hein, et qui identifie le stato aux relations étrangères, relations extérieures, il ne faudrait pas penser que cet usage aussi spécifique soit seulement un idiotisme, hein, propre à la langue administrative, un terme de pure nomenclature. Dans bien des cas, l'expression « cose di Stato » ne nomme plus directement le domaine réservé des dix, hein, des dieci di Balia, mais désigne encore précisément les questions diplomatiques et militaires. On a ainsi une lettre de septembre 1502, donc une lettre que Machiavel adresse au commissaire de Romagne, donc celui qui représentait l'autorité centrale, l'autorité de la République, dans la partie de la Romagne qui, à ce moment-là, était sous contrôle florentin. Donc, dans cette lettre, Machiavel range sous l'appellation « cose di Stato » le problème de l'entente avec l'ennemi que nourriraient certains Romagnols, certains habitants, une entente avec l'ennemi donc, qui fait craindre la perte de cette partie du territoire au profit donc d'un condottiere hostile. On a là un exemple où il n'est pas simplement question de définir un domaine de compétence d'une institution spécifique, mais tout simplement de dire, voilà, l'entente avec l'ennemi est quelque chose que l'on peut appeler una cosa di Stato. Alors, on trouve aussi, et c'est particulièrement instructif, hein, d'autres syntagmes, d'autres expressions qui donnent le même sens au mot Stato. Le cose di Stato trouvent, par exemple, une version développée, une formulation développée, dans l'expression le cose che si maneggiano degli stati. Les choses, on pourrait traduire ça par les choses propres au maniement des États. Et de quoi s'agit-il dans ce cas ? Il s'agit des négociations entre les États en vue d'une assistance militaire mutuelle. Le contexte montre, là encore, que les cose che si maneggiano degli stati désignent précisément les affaires interétatiques et non pas la politique en général. Une autre expression associe le mot à l'entente avec l'étranger, tramare qualche cosa di Stato. Hein? Tramare qualche cosa di Stato. Employé donc par Machiavel lors d'une légation à Sienne à propos d'un homme, donc c'est lui hein, qui est en légation, c'est lui qui est en quelque sorte même l'ambassadeur florentin, même s'il n'a pas le titre d'ambassadeur, donc à propos d'un homme que le seigneur de Sienne, à ce moment-là, un Pandolfo Petrucci, fait arrêter parce qu'il le soupçonne donc de tramer pour le compte d'une cité ennemie. Donc il trame une chose d'État, une chose de l'État. Voilà. Et là, on a encore l'idée que ces choses de l'État hein, sont en particulier touchent en particulier tout ce qui concerne l'entente avec l'étranger, éventuellement l'espionnage, etc. Alors, on voit par là, je m'arrête ici pour les exemples, il y en aurait encore un certain nombre, mais je crois que ça suffit hein, pour montrer que, loin de se limiter aux questions intérieures auxquelles on le ramène le plus souvent, hein, l'État, lo Stato, selon Machiavel, désigne tout autant ce sujet politique inscrit dans des rapports de force internationaux, toujours en relation avec d'autres États, avec d'autres Stati. Et on constate, dans le Prince et dans les discours, mais aussi dans les lettres donc, qui sont contemporaines au Prince et au discours, que Stato conserve le sens dont étaient porteuses les cose di Stato évoquées dans les lettres de chancellerie. Hein. Celles que j'ai citées sont toutes à peu près, appartiennent toutes au tout début du siècle. Hein. Ce sont des lettres qui ont été écrites entre 1500 et 1505 à peu près. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai trouvé aucune occurrence de l'expression cosa di Stato dans les textes de Machiavel où le sens de l'expression porterait sur les affaires intérieures. Il s'agit toujours des affaires extérieures. Et l'expression apparaît dans Le Prince, au chapitre 3, et elle désigne, là encore, donc c'est cose di Stato, désigne la façon dont il faut agir avec les princes qui sont vos ennemis pour qu'ils ne deviennent pas trop puissants. En particulier, Il s'agit ici de la décision qu'il convient de prendre lorsque le conflit devient probable. Mais ce qui est plus significatif encore, et ce qui m'importe ici, c'est de souligner, c'est là que je veux en venir, hein, que ce sens de stato se diffuse à travers d'autres expressions, dans d'autres occurrences, sans qu'il soit besoin, dans ces cas-là, d'employer la totalité de la locution cause et distincte. Et c'est, par exemple, le cas dans un célèbre passage du même chapitre, hein, du chapitre 3 du Prince, où Machiavel rend compte donc, d'un échange qu'il avait eu lors de sa légation en France en 1500 avec le premier ministre de Louis XII, alors, du roi de France, ce ministre donc, qui était Georges d'Amboise, hein, le cardinal de Rouen. Je cite donc, « Dicendomi, il cardinale di Roano, che gli italiani non si intendevano della guerra, io gli risposi che i francesi non si intendevano dello Stato, perché se egli se ne intendessino, non lascerebbero venire in tanta grandezza la Chiesa. » Traduction, « Comme le cardinal de Rouen me disait que les Italiens n'entendaient rien à la guerre, je lui répondis, quant à moi, que les Français n'entendaient rien à l'État, car s'ils s'y entendaient, ils ne laisseraient pas l'Église s'élever à une telle grandeur. Intendersi dello Stato. De quoi est-il question ici ? Pour comprendre cette phrase, il faut évidemment reprendre tout son contexte, hein. À l'intérieur du chapitre 3, donc Machiavel explique quelles ont été les fautes du roi de France, Louis XII, dans ses entreprises italiennes. Et il relève en particulier la grave erreur que commit le roi en permettant au pape et à son fils César Borgia de se tailler un grand état en Italie centrale. L'anecdote sert ainsi à conclure une longue analyse de politique étrangère et de géostratégie pure. Avec l'idée que il ne faut jamais, en particulier, aider quelqu'un, un autre État, hein, qui est déjà puissant, à devenir plus puissant encore. Donc dans le texte, dans la phrase que je viens de citer, d'un côté, le cardinal de Rouen qui dit que gli italiani non si intendevano della guerra, hein, et Machiavel qui répond les Français n'entendent rien à l'État, hein, non si intendevano dello Stato. Dans cette phrase, Machiavel ne dit pas les Italiens ne connaissent peut-être rien à la guerre, comme le disent les Français, hein, mais les Français ne connaissent rien à la politique. Il dit la force des armées ne sert à rien si les politiques qui les dirigent n'ont aucune intelligence géostratégique des affaires étrangères. On retrouve bien dans Le Prince le sens de stato que j'ai mis en évidence, hein, et ici on le retrouve avec une plus grande précision encore, puisque les affaires étrangères et la guerre ne sont pas condensées dans un même terme, hein, mais bien distinguées. On a un autre passage bien connu, là encore, que l'on peut rappeler ici, qui est tiré cette fois de la correspondance de Machiavel avec Francesco Vettori. Francesco Vettori, qui est alors ambassadeur de Florence auprès du pape, hein, durant l'année 1513, donc celle de l'écriture du prince. Le 9 avril, Machiavel écrit à Vettori. non sapendo ragionare né dell'arte della seta e dell'arte della lana, né dei guadagni né delle perdite, e mi conviene ragionare dello Stato, e mi bisogna o botarmi di stare cheto o ragionare di questo. Traduction, ne sachant parler ni de l'art de la soie, donc l'art de la soie au sens métier hein, de la soie, ne sachant parler ni de l'art de la soie, ni de l'art de la laine, ni des gains, ni des pertes, il me faut bien parler, hein, raisonner, parler de l'État, et je dois ou faire le vœu de me taire, ou parler de cela. Donc, ragionare dello Stato, parler de l'État, c'est ce que font, ce que ne cessent de faire Machiavel et Vettori durant toute cette correspondance pendant l'année 1513. Qu'est-ce qu'ils font précisément? De quoi parlent-ils précisément? Ils parlent des affaires internationales et uniquement des affaires internationales, des affaires étrangères. Et uniquement des affaires étrangères. Machiavel, dans ce passage que je viens de citer, hein, répond en fait à Vettori, qui lui avouait s'être trompé sur l'élection du nouveau pape Léon X, hein, un pape Médicis, un membre de la famille Médicis, car il pensait que le fait que les Médicis et que le nouveau pape contrôlait déjà un État, hein, qu'on avait déjà un pouvoir important, hein, à Florence, donc, où les Médicis reviennent au pouvoir en 1512, hein, ce pouvoir que les Médicis avaient déjà leur permettrait pas d'obtenir les faveurs tout à la fois de l'empereur, du roi d'Espagne et des Vénitiens. Hein. Or, pour l'élection, hein, dans le cadre du conclave, il fallait bien que les cardinaux, hein, favorables, les cardinaux représentants d'une certaine manière l'empereur, le roi d'Espagne et les Vénitiens, respectivement, hein, apportent leur vote à ce pape, hein, à cet impétrant pape. Voilà. Alors, Machiavel, à cela, réplique que lui aussi s'est souvent trompé, mais que ne sachant aucun autre métier, hein, il lui faut bien ragionare dello Stato, et c'est donc à ce moment-là qu'intervient le texte qu'il écrit, le passage que j'ai cité. Hein. Donc, de quoi parle-t-il? Non pas généralement, comme on le pense souvent, hein, de politique, mais des affaires étrangères. Et parler des affaires étrangères, c'est ce que l'un et l'autre, hein, Machiavel et Vettori, ils ne cessent de faire durant toute cette année 1513, cherchant en particulier à quelles conditions une paix entre les grandes puissances européennes pourrait être possible. Le 29 avril, hein, donc quelques semaines à peine plus tard, 29 avril 1513, introduisant là encore une longue analyse de toute la politique étrangère et militaire du roi d'Espagne depuis, disons, des trois dernières années, Machiavel nomme là encore le contenu de sa lettre au moyen de l'expression, hein, « pensare a cose di Stato », penser aux choses de l'État. On a donc tout lieu de penser que lorsque dans sa célèbre lettre du 10 décembre 1513, hein, à la fin de l'année, de la même année toujours, Machiavel, dans cette lettre, évoque « l'arte dello Stato », hein, cette fameuse expression qui est un apax, hein, qui n'apparaît qu'une seule fois dans le corpus machiavélien, hein, donc cet art de l'État, mais au sens du métier de l'État dont il revendique la maîtrise, et dont il veut donner la preuve, hein, maîtrise dont il veut donner la preuve avec le prince, hein, on a, je crois, tout lieu de penser qu'il s'agit dans son esprit d'une maîtrise du métier des affaires étrangères et militaires, surtout, hein, plus encore que de la politique intérieure. Et du reste, ce serait tout à fait logique, hein, étant donné les fonctions qu'il a exercées au service de la République pendant une quinzaine d'années, et qui avait trait avant tout à la gestion des affaires diplomatiques et militaires. Voilà, alors, je vais m'arrêter là et conclure en posant la question de savoir en gros pourquoi est-ce que c'est intéressant, pourquoi est-ce que c'est important de s'arrêter sur ces usages du terme stato à travers une analyse comme ça aussi précise, minutieuse de tous les contextes dans lesquels l'expression ou le terme stato, l'expression cosa di stato, le terme stato apparaissent. Hein. Une question vraiment de pure philologie politique. Alors, je crois pour deux raisons au moins. D'une part, comme je le suggérais au départ, parce que cela nous donne des pistes de compréhension concernant la thématisation du stato comme instance autonome. C'est d'abord dans les relations avec les autres États, dans ce qui est de l'ordre de ce que les Florentins de l'époque appellent donc les cose di stato, que le Stato, l'État, se représente comme entité, comme instance, indépendamment de ses gouvernants, indépendamment de sa configuration institutionnelle particulière et de ses citoyens. D'autre part, cette question est aussi importante parce qu'elle l'aide à comprendre que la priorité des affaires extérieures sur les affaires intérieures est une idée qui sous-tend tout le prince. L'enjeu véritable du livre n'est pas tant la définition d'une pensée monarchique, hein, pensée du principat, donc, qui ne serait qu'une parenthèse par rapport à une longue fidélité républicaine, mais l'enjeu principal est un enjeu international et militaire, inscrit dans les guerres d'Italie, inscrit dans l'actualité géopolitique de ces guerres. Et c'est une chose qu'il est toujours important de rappeler, parce que une grande partie de ce que l'on a pu et de ce que l'on peut encore trouver choquant, hein, dans Le Prince s'explique par le fait qu'il s'agit de la réponse théorique que Machiavel apporte à une situation critique en matière de politique extérieure. Comme il le disait déjà dans un texte donc, écrit 10 ans auparavant, en 1503, hein, dans le cadre international de l'époque, ce n'étaient certainement pas les lois ou les pactes qui régulaient les rapports entre souverains, hein, donc ce n'étaient pas des relations de type juridique ou un ordre de type juridique, mais c'était uniquement la force des armes. C'est cette pensée de la force des armes, seul critère important donc, pour réfléchir au mieux les rapports entre les États, qui est développé tout au long du texte du prince, hein, qui ne parle pas, bien sûr, qui ne traite pas, bien sûr, que de questions d'affaires étrangères, de relations interétatiques, mais qui traite surtout de cela et qui soumet les questions de politique intérieure à ces exigences, à ces nécessités hein, provoquées par un contexte où les affaires internationales sont constamment marquées par la violence et la guerre.